Voilà, j'ai le privilège de pouvoir inaugurer notre vision d'église pour 2025, porteur d'espérance. Deux mots, ça claque, ça sonne bien, mais il y a quelque chose de profond derrière. Et puis j'aimerais introduire cette thématique avec une question. Écoutez bien la question parce que c'est certainement la plus importante qui vous sera jamais posée. Alors là, j'ai votre attention. Tac. Cette question est importante et cruciale. Elle a accompagné de nombreux chrétiens depuis le mois de janvier 1563, date de la première édition du catéchisme de Heidelberg. Cette question est la suivante. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ? Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Avant de donner une réponse à cette question, arrêtons-nous un petit peu sur la question elle-même. Parce que cette question révèle un message puissant. Elle nous demande quelle est notre unique assurance. Et ce mot « unique » est important. La question dépasse simplement le fait de savoir ce qui nous réconforte dans la vie. Quelle est notre unique assurance ? Je sais qu'on a un ancien assureur dans la salle, et j'ai pas envie qu'il comprenne ce mot comme si son métier n'avait rien servi toute sa vie. Ça a son utilité, avec plaisir Philippe. Je parle ici d'une autre assurance, qu'on soit bien clair. Tu peux rester, c'est bon. Moi aussi, c'est bon. Notre unique assurance. On parle bien plus qu'un réconfort. Il y a plein de réconforts que nous pouvons avoir dans la vie. Du chocolat, du sport, une situation professionnelle, de l'argent, les technologies par exemple, voire même l'identité qu'on se construit. Tout ça peut amener un certain réconfort. Mais la question qui nous est posée ce matin dépasse tout cela et nous demande, mais quelle est notre unique assurance? Qu'est-ce qui, dans tout ce qui peut nous réconforter, prime sur tout? La première question du catéchisme de Heidelberg sous-entend qu'il y a une assurance qui transcende tout le reste. Et cette assurance ne s'arrête pas au temps présent. La question qui est posée, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Cette assurance demeure certaine dans la mort. Alors quelle est cette assurance? Quelle est cette unique assurance? Voici la réponse que donne le catéchisme de Heidelberg. Et on peut mettre la slide suivante. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul de mes cheveux, de ma tête, sans que la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur.
Amen.
Amen. Voilà la réponse que le catéchisme donne à cette première question. Et à l'époque, on devait l'apprendre par cœur. Qui serait capable de redonner cette réponse par cœur? Il y a beaucoup de contenu, elle est riche. Mais cette réponse part d'une certitude. Une certitude dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant, et aussi une confiance sereine dans l'avenir. Et tout part de cette appartenance à Christ. c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur. Qu'est-ce qui donne l'assurance face à la mort? Est-ce que c'est lire la Bible tous les jours? Est-ce que c'est aller à l'église tous les dimanches? Est-ce que c'est donner de l'argent aux pauvres? Est-ce que c'est se constituer une épargne retraite confortable? Oui, ça a son importance, Philippe. Je ne vais pas dénigrer ton métier d'assureur. On est en concurrence ce matin. Ça a son importance. Mais comparé à appartenir à Christ, je crois que la prévoyance retraite est secondaire. Est-ce que c'est ce qui est important, c'est de ne pas avoir commis de péché grave dans notre vie? Tout cela est balayé. Parce que ce qui compte, c'est d'appartenir à Christ. Ne plus s'appartenir à soi-même, mais à Christ. C'est une idée qui va à l'encontre de la culture ambiante. On nage à contre-courant. Ne pas s'appartenir à soi-même et appartenir à Christ a causé de gros problèmes à de nombreux chrétiens. Dans les premiers siècles du christianisme, les chrétiens dérangeaient beaucoup le pouvoir impérial romain. Pas que le christianisme était dérangeant en soi, mais parce que ces chrétiens vouaient une allégeance supérieure à celle de l'empereur. En fait, ce qu'ils disaient, c'est ben, tant que les lois de l'empereur ne contredisent pas ce que Christ nous dit, c'est OK. Mais s'il y a un choix à faire entre l'empereur romain, les dieux romains et Jésus-Christ, nous choisirons Jésus-Christ. Et ça a inquiété de nombreux empereurs romains qui ont déclenché des persécutions épouvantables contre les chrétiens. Et je crois qu'aujourd'hui, les chrétiens persécutés ont le même schéma. Ils vouent une allégeance supérieure, celle d'appartenir à Christ. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est ça. Est-ce que nous, on serait prêts à s'opposer aux lois de notre pays si elles nous demandaient de renier Christ ? Appartenir à Christ, c'est le cœur du message de ce matin. Et il y a une double importance là derrière. C'est une assurance, comme le catéchisme le relève. C'est une assurance parce que notre appartenance à Christ ne repose pas sur nos compétences à nous, ou à ce que nous sommes, ou ce que nous essayons d'être, mais l'espérance chrétienne, cette assurance-là est fondée sur la grâce. Et la grâce est une action de Dieu qui ne dépend pas de nous, mais de lui seul. Sur la croix, Jésus n'a-t-il pas dit « Tout est accompli » ? Sous-entendu, il n'y a rien à ajouter à ce que j'ai fait. Notre assurance trouve son fondement en dehors de nous-mêmes. C'est rassurant, non ? Pour ma part, ça me rassure, parce que moi-même, je ne sais pas si je suis très fiable pour une assurance qui dure dans la vie et dans la mort. Mais quand c'est Jésus-Christ qui dit « Tout est accompli », il y a du sens. Avec cette assurance d'appartenir à Christ, on peut supporter la souffrance, les déceptions de la vie. Faire face à la mort et à la vie éternelle sans avoir peur du jugement. Parce que ce n'est pas en raison de ce que l'on a fait, ou de ce que l'on possède, ou ne possédons pas, ou de qui l'on est. Mais c'est justement parce qu'on ne se possède pas nous-mêmes. C'est parce que nous appartenons à Christ. C'est ça le moteur de notre vie, qui peut nous aider à supporter la souffrance, les déceptions, la vie, la mort, sans avoir peur du jugement. Le réformateur Jean Calvin le formule ainsi, on peut mettre aussi la slide suivante, « Nous ne nous appartenons pas, que notre raison et notre volonté ne donnent pas dans nos réflexions et nos décisions. Nous ne nous appartenons pas, n'ayons pas peur, n'ayons pas pour objectif ce qui nous plaît selon la chair. Nous ne nous appartenons pas, oublions nous-mêmes autant que possible, ainsi que tout ce qui nous entoure. Au contraire, nous sommes au Seigneur, que sa volonté et sa sagesse dirigent nos actions. Nous sommes au Seigneur. Ce réconfort-là, on le trouve en reconnaissant notre péché, nos manquements, au lieu de l'excuser. On trouve ce réconfort en reconnaissant et en plaçant notre confiance dans un autre, Jésus-Christ, plutôt qu'en nous-mêmes. Et c'est ainsi que l'appartenance à Christ revêt une dimension d'espérance, parce qu'elle dure dans l'avenir. Et cette espérance, c'est la vie éternelle. Et j'aimerais vous lire quelques versets du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, versets 8 à 13, qui dit « L'amour ne meurt pas. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. J'étais content de me dire, je peux citer 1 Corinthiens 13 dans cette prédication, ça me permet de poursuivre ma série sur 1 Corinthiens, mais j'ai été frustré de voir que le plus important c'était l'amour et pas l'espérance. Ça m'aurait arrangé que ce soit l'espérance, vu la thématique qu'on a. Alors je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est pas l'espérance qui est plus important, mais l'amour? À votre avis? Parce que l'amour ne meurt pas. Verset 8, l'amour ne meurt pas. L'espérance et la foi auront une fin. La foi n'aura plus sa place au ciel. Quand nous serons auprès de Jésus, l'espérance sera complètement accomplie. On ne parlera plus d'espérance. Mais l'amour sera éternel. Car Dieu est amour. Merci Gérard. Donc, c'est assez... Ça paraît paradoxal, mais c'est quand même une glorieuse espérance de savoir que cette espérance va prendre fin une fois. Ce ne sera pas une fin qui est marquée par la désillusion, mais par un accomplissement. L'accomplissement que Christ reviendra et que nous serons avec lui pour l'éternité. Actuellement, cette espérance peut être voilée, et c'est ce que Paul dit au verset 12. On voit au moyen d'un miroir. Alors les miroirs à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était du métal poli, donc on voyait pas très très bien. On voit de manière peu claire, on entrevoit les choses. Mais un jour, nous connaîtrons. Et nous avons cette assurance, en appartenant à Christ, qu'un jour, nous connaîtrons pleinement. Nous connaîtrons pleinement l'amour de Dieu. Notre espérance ne se trouve pas dans des fondements tout humains que nous pourrions faire nous-mêmes. Mais notre espérance se trouve donc, à la lecture d'un Corinthiens 13, dans l'amour de Dieu. « Quand nous parlons d'espérance, nous parlons aussi d'amour. Le moment où chacun, chacune de nous arrivera au ciel, la première fois que nous ferons l'expérience de l'amour parfait, non seulement l'amour parfait de Dieu pour nous, mais aussi un amour parfait les uns pour les autres. Est-ce que vous arrivez à imaginer cette glorieuse réalité ?
Amen.
Amen. Au moins un. En conclusion, et pour appuyer notre espérance, j'aimerais dire que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde parce qu'il croyait dans le monde. Et il espérait en ce monde. Jésus est venu parce qu'il aimait ce monde. L'amour de Dieu est le moteur de notre espérance. Et parce que l'amour de Dieu s'est manifesté concrètement en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, nous pouvons sereinement réciter ce catéchisme de Heidelberg. Je ne le sais pas par cœur, voilà, c'est un comble. C'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ. Je prie que ces paroles puissent être les nôtres ce matin. Je vous invite à aller un petit bout plus loin avec quelques questions que vous pouvez prendre avec vous. La première, on peut avancer dans les slides. Ouais, ça, je ne l'ai pas cité finalement. Voilà. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort ? Je repose la question du catéchisme. Elle mérite réflexion. Et comment se manifeste cette assurance dans ma vie de tous les jours ? Dans mon service pour la société, dans mon travail, mais aussi dans ma vie d'église. Voilà quelques questions que je vous invite à prendre avec vous, à méditer durant cette semaine. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants d'avoir envoyé Jésus-Christ, ton Fils, qui a donné sa vie, qui est ressuscité, pour que nous puissions ce matin parler d'unique assurance dans la vie comme dans la mort. Nous confessons la victoire de Christ sur la mort. Nous savons que si nous appartenons à Christ, la mort n'a plus aucun pouvoir sur nous. Seigneur, tu nous as aussi placés dans ce monde qui essaye par divers moyens de trouver du réconfort dans d'autres religions. On voit le foisonnement des spiritualités orientales. Il y a tellement de choses qui cherchent à apporter du réconfort. Et Seigneur, ce matin, tu nous rappelles que nous avons tout en Jésus-Christ. Que cette espérance qui est la nôtre, que cette assurance-là, nous puissions en être certains. Et Seigneur, si certains de mes frères, de mes sœurs ont des doutes sur cette espérance, je te prie que ton esprit les conduise, les guide dans leur cheminement. Qu'ils trouvent des personnes sur leur chemin pour les éclairer, les guider, les accompagner dans leurs questionnements. Et Seigneur, je veux aussi, en tant que pasteur de cette communauté, me tenir à disposition de celles et ceux qui auraient besoin de découvrir cette espérance. Je prie en ton nom, Jésus. Amen.